France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Quelle étape, mais quelle étape, hein. Ah, on a rêvé devant cette étape du Tour de France entre Mondorf-les-Bains et Vittel. 207 km de pure passion que vous avez pu suivre sur France Info, avec ce peloton groupé, cette échappée sauvage d'Edouard Philippe, suivi ensuite par tous les présidents de groupe, à la limite de la chute, et en plus un Français a gagné l'étape. Ah, il est bien, Arnaud-Edouard Philippe démarre, parce qu'en fait, on mélange ce soir Tour de France et politique, parce que au niveau des audiences télé, eh bien, hier, la grande boucle a laminé le discours du président de la République à Versailles. Voilà, donc on essaye de faire les deux. Ici, ça sent le bitume et la politique, donc vous êtes les bienvenus. Et ce soir, eux, ils tentent de comprendre les changements de braquet de la politique française. Et les informés de France Info reçoivent Laure Breton, bonsoir, de bonsoir. Libération. Également, l'entrepreneur Rafik Smati, bonsoir.
Bonsoir.
Vincent Trémollet, du Figaro, bonsoir. Bonsoir. Et Thomas Guénolé, politologue de Son État, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Et ce soir, nous parlerons discours de la méthode parlementaire au régime, quelques ronds de fumée. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. À croire que le discours du président les avait un peu endormis. Pour le speech d'Edouard Philippe, ils n'ont pas hésité. Alors là, ça y allait, hein. Une annonce, un applaudissement nourri. Pendant un moment, Richard Ferrand a tenté une chenille et puis s'est ravisé. À la fin, il a dit à ses troupes « Allez, on fait une ola !» Et puis non, bon bah autant rester sobre. Mesures sur les réfugiés et l'immigration irrégulière, réforme de la taxe d'habitation, mesures pour la justice, nouveau bac pour 2021. Ça coûtera plus cher de fumer, il faudra également vacciner. Bref, le Premier ministre a fait une liste des courses gouvernementale assez costaude, et le Premier ministre d'ailleurs n'a pas hésité à citer ses références. Il connaît par cœur sa 5e République, Édouard Philippe.
De cette société bloquée, je retiens trois éléments essentiels. La fragilité de notre économie, le fonctionnement souvent défectueux de l'État, enfin l'archaïsme et le conservatisme de nos structures sociales. Ces mots sont d'une actualité criante. Ils ont été prononcés le 16 septembre 1969, par Jacques Chaban-Delmas. Nos priorités ne sont pas celles d'une moitié de la France contre l'autre moitié, mais celles de tous les Français. Défaire ce que les autres ont fait, faire ce que d'autres déferont, voilà bien le type de politique dont les électeurs ne veulent plus. Nous ne demanderons à personne de nous rejoindre par intérêt ni de trahir ses convictions. Des mots de Michel Rocard, le 29 juin 1988.
Voilà donc le début du discours d'Edouard Philippe à la tribune de l'Assemblée nationale. Vincent Trémollet, Chaban-Delmas, Rocard. Pourquoi ces deux références ?
Bah pour montrer qu'il est de droite et de gauche, puisqu'il a cité aussi Alain Juppé, qui est son maître. Alors, ce qu'on peut dire sur ce discours, d'abord, il y a quand même un problème d'éloquence dans le duo présidentiel-premier ministre. C'est-à-dire qu'entre le discours d'hier et celui d'aujourd'hui, on n'a jamais eu le moment d'incarnation et le souffle que l'on attend pour ce genre de discours. Ensuite, moi, j'avais un peu l'impression d'entendre le directeur de cabinet du président de la République. Et donc, ce catalogue de mesures, rien ne s'en est dégagé. On avait dit que la loi travail était la mère des batailles. Elle a été 10 lignes dans ce discours. Donc, j'avais l'impression d'être un peu devant du raffarin sans les raffarinades, si vous voulez. Quelque chose qui ressemblerait à ça, c'est-à-dire personne ne peut être absolument contre, mais il n'y a pas d'élan que cela crée. Et donc, je crains que la France soit maintenant dans une cellule de dégrisement après le grand enthousiasme macronien. Ces deux jours n'ont pas été enthousiasmants.
Laure Breton, juste avant de revenir justement sur le contenu de ce discours, je reviens juste sur Chaban-Delmas Rocard. Est-ce que ça vous a étonné, ces références ? Est-ce que c'est assez logique de la part d'Edouard Philippe de citer ces deux personnages de la Ve République ?
Bah, on a une référence gaulliste, clairement, avec Chaban-Delmas. Et puis, on a une référence au socialisme que Emmanuel Macron, Manuel Valls et que Édouard Philippe peut cautionner, qui est effectivement le rocardisme. C'est pas n'importe quel socialisme. Mais surtout, ce qui est rigolo, vous parliez d'éloquence. Je trouve qu'après le grand numéro, le grand oral hier, qui était assez pontifiant, assez théâtral, on avait quelqu'un... Moi, je suis pas complètement sûre que c'était quelqu'un d'endormi. C'était quelqu'un de très placide. Mmh. On peut dire qu'il y avait placide et museau et placide. Je sais pas où était les répartitions des rôles, mais enfin il y avait une certaine forme d'humour, alors un débit de mitraillette, ça c'est sûr, sur la forme.
On a cité une autruche aussi, c'est la première fois,
une autruche d'ailleurs, voilà. Il a tenu à faire savoir que c'était bien lui qui avait glissé ça dans son discours. Mais on a surtout eu un discours qui était coupé et entrecoupé de milliers de salves d'applaudissements, alors qu'hier c'était glacial. Enfin, ils ont applaudi deux fois hier, et cette fois-ci ils ont même applaudi sur Édouard Philippe, qui dit qu'on a un nombre déplorable de Bachelier qui se qualifie pour la licence. Oui. Et là, il y a tout
ça
le monde
ressemblait
qui a
ça ressemblait aux helpers des meetings qui applaudissaient. Alors,
juste
ça, une chose,
il y avait juste des consignes de Richard Ferrand et de Christophe Castaner d'applaudir, cette fois-ci, d'y aller franco.
Ouais. Justement, Laure Breton, juste une question. Là, vous revenez juste de l'Assemblée nationale, vous l'avez suivi pour Libération. À quoi ça ressemble, justement, une ambiance de discours général? Est-ce que tous les députés sont attentifs ou alors on est, comme dans n'importe quel sens, à regarder son iPhone, à jouer ou pas, ou là, on est plus attentif?
En tout cas, le contraste était criant avec la séance du Congrès hier, où il faisait extrêmement chaud dans la salle du Congrès à Versailles, où clairement les parlementaires semblaient s'endormir. Il y a quelqu'un qui avait trouvé l'idée du roi sommeil plutôt que le roi soleil. Aujourd'hui, les gens étaient très attentifs. On a vu par exemple Marine Le Pen qui prenait des notes pendant toute la partie sur le droit d'asile. On a vu Mélenchon et les Insoumis effectivement avoir préparé un petit coup avec leur code du travail qu'ils ont mis sur leur pupitre au moment où le Premier ministre. Donc il y avait un peu de préparation, il y avait un peu de solennité, mais en tout cas c'est demain la première séance de questions d'actualité, donc je pense que c'est demain qu'on aura une vraie opposition dans l'hémicycle.
Thomas Guénolé, vous-même, quand vous avez vu au départ votre première impression, pour vous Édouard Philippe l'a plutôt réussi?
Je me suis dit que c'était un exercice inutile. Ça ne remet pas en cause l'utilité d'exprimer les réformes qu'on a l'intention de faire, mais ça avait déjà été dit et redit, et donc pourquoi le redire une fois encore? Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne le savent pas, mais le discours de politique générale du Premier ministre, en réalité, ce n'est pas obligatoire. La Constitution ne l'impose pas, c'est juste un usage. Donc c'est utile quand on a un nouveau Premier ministre qui marque un virage dans le quinquennat, par exemple Villepin en 2005. C'est utile d'avoir un discours de politique générale pour qu'il nous dise quel est le contenu du nouveau tournant. C'est utile quand on est en cohabitation, parce que le Premier ministre est le vrai patron, et donc il va annoncer ses réformes, mais c'est inutile quand on vient de terminer la présidentielle, on a eu le projet, c'est bon, on est au courant des différentes réformes qui sont envisagées, ça a été dit, répété, redit, répété, et donc quand ensuite on a le Premier ministre qui vient pour faire un discours de politique générale où il n'y a pas d'éléments nouveaux, eh bien le problème qu'on a, c'est que c'est un discours finalement pour rien, au sens où on était déjà au courant de tout, donc c'était pas nécessaire de nous faire nous déplacer.
Alors on va continuer à en parler dans un instant, l'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Édouard Philippe obtient donc la confiance de l'Assemblée, 370 voix pour, 67 contre. Après son discours de politique générale, le Premier ministre s'engage à faire baisser la dépense publique de 3 points de PIB. Au cours du quinquennat, il juge nécessaire de se désintoxiquer, dit-il, vis-à-vis des dépenses de l'État. Le chef du gouvernement annonce également un report à 2019 de la réforme de l'impôt sur la fortune. Notez que le Sénat vote ce soir la prolongation de l'état d'urgence pour la 6e et dernière fois depuis le 13 novembre 2015. Le président Macron a annoncé hier qu'il ne sera pas reconduit à l'automne. Une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Thionville après que de l'acide utilisé sur un site du groupe sidérurgique ArcelorMittal a été déversé dans un dépotoir où il n'aurait pas dû l'être. Ça s'est passé à Florange, en Moselle. Enquête ouverte pour atteinte à l'environnement. Daesh, désormais acculé sur deux fronts dans ses deux capitales autoproclamées, en passe d'être vaincu à Mossoul en Irak. Les combattants de l'organisation État islamique sont sous pression à Raqqa en Syrie. L'alliance arabo-kurde des forces démocratiques syriennes a franchi les murs de la vieille ville, appuyée par les avions de la coalition. Un millier de combattants supplémentaires, soutenus par la France et les États-Unis, ont été déployés sur les lignes de front à Raqqa. Coup de tonnerre ce soir sur le Tour de France. Le champion du monde Peter Sagan est exclu par le jury des commissaires. Le Slovaque est à l'origine de la chute de Mark Cavendish à l'arrivée de la 4e étape à Vittel. Les organisateurs lui reprochent son comportement dangereux.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du discours de politique générale du Premier ministre après le discours du Président de la République à Versailles. C'est sûr que demain, ça va peut-être nous manquer, je ne sais pas, un grand discours comme ça. En tout cas, du côté des opposants, eh bien, bon, bah, finalement, on s'accorde à dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose, comme le rappelle le député Les Républicains, Éric Woerth.
J'étais déçu, je pense que le discours est raté, comme le discours d'hier du président de la République, quoi. Mais finalement il y a une cohérence, quoi. On rate les deux. C'est dommage. L'un était trop littéraire et on risque d'être banal, et le second est pas assez précis.
Voilà, Éric Woerth, donc des Républicains. Alors, Ravix Mathis, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait que Emmanuel Macron s'exprime avant Édouard Philippe. Maintenant que les deux ont fait leur discours, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été complémentaires ou que l'un a dépassé l'autre finalement, d'après vous?
Ils ont été complémentaires dans dans la médiocrité.
Ah, calme, d'accord.
Si je puis dire, dans le sens où, effectivement, il y en a un qui était sur les sujets plus régaliens et un autre sur les sujets plus pragmatiques. J'ai été très déçu par le discours de politique générale du Premier ministre. D'ailleurs, c'était pas vraiment un discours, c'était un catalogue. Vincent le disait tout à l'heure. C'est un catalogue et...
Est-ce que ça n'est pas toujours, finalement, ces discours de politique générale?
Oui, mais je vais vous dire, ce que les Français attendent, c'est précisément une politique. Une politique, c'est quoi? C'est une logique. C'est un ensemble de décisions qui, dans leur cohérence, est extrêmement lisible. Or, moi, je ne vois pas ce qu'il y a de lisible. Ce que j'observe, c'est que nous avons un gouvernement qui a pris conscience des mensonges de la campagne électorale, qui étaient absolument avec des promesses infinançables et donc qui sont reportées aux calendes grecques, soit. Ensuite, je vois un Premier ministre qui est dans le commentaire de la situation de la France, c'est très bien, 2200 milliards de dettes, etc., qui dit c'est inacceptable, on est assis sur un volcan, nous sommes parfaitement d'accord. Mais que va-t-il faire pour gérer cette question de la dette publique? C'est un sujet essentiel parce que c'est notre souveraineté. Et malheureusement, rien de concret dans ce discours de politique générale vient résoudre cette question fondamentale pour notre pays.
Laure Breton, est-ce que ce n'est pas toujours le cas finalement? Est-ce que c'est concret généralement un discours de politique générale, plus concret que ça?
Non, je crois qu'on est descendu. En tout cas, on est descendu sur certains sujets. On a vu la réforme du bac, l'éducation nationale. On s'y attendait pas. Il est allé très loin aussi dans la justice, enfin sur la réforme de la justice. Ce qui est assez étonnant surtout, c'est que on s'attendait, avec la théâtralisation d'une certaine manière du rapport de la Cour des comptes la semaine dernière, à un discours un peu du sang et des larmes, un peu churchillien. Il manque de l'argent. Le budget de François de la dernière année de François Hollande était insincère. Donc on s'attendait à un truc un petit peu. Et en fait, finalement, il y a assez peu de chemin sur les économies. Ça, on est d'accord. Alors ce qui me frappe, c'est que on a reproché, par exemple, beaucoup à la gauche, la droite d'ailleurs, on reprochait beaucoup à Jean-Marc Ayrault, dans son premier discours de politique générale, de ne pas avoir insisté sur l'état de la France. C'est un petit peu le péché originel du quinquennat précédent, alors que Jean-Marc Ayrault voulait le faire. C'est François Hollande qui n'a pas voulu brusquer les Français juste après son élection. Et on se retrouve un tout petit peu, toute proportion gardée, dans le même schéma. C'est-à-dire qu'on a Édouard Philippe qui devait assumer les réformes, assumer les coupes, et qui ne le dessine que de très très loin.
Alors justement, il a utilisé une métaphore, Édouard Philippe, vous en avez parlé, Rafik Smati, on va l'écouter d'ailleurs, Édouard Philippe, quand il nous parle justement des finances de l'Hexagone, il n'est pas des plus optimistes.
Qui peut penser que cette situation est durable? Sous le regard inquiet des Français, nous dansons sur un volcan qui gronde de plus en plus fort. Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer.
Alors, une intoxication tellement forte d'ailleurs que le Premier ministre a fait un petit lapsus juste après, on va l'écouter.
L'objectif du gouvernement est ambitieux. C'est de faire en sorte qu'elle soit stable, hors inflation en 2018 par rapport à 2017. Stable. On ne dépensera pas plus en 18 qu'en 17.
Voilà, en disette. Voilà, donc c'était un terrible quand même lapsus, en tout cas de la part d'Edouard Philippe.
Ça, c'est joli.
Alors, Vincent Trémollet, justement, est-ce que là on voit aussi à la manœuvre finalement le fameux et de droite et de gauche, la branche droite du gouvernement là qui agit? On le voit bien, c'est Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Edouard Philippe.
En fait, il y a un fait qu'on n'a pas vu, mais pourtant on a observé la vie politique, c'est qu'Alain Juppé a gagné l'élection présidentielle. Pour que Juppé gagne, il fallait qu'il ne soit pas candidat. Et là, ce que l'on voit dans une partie du discours, c'est l'homme qui aurait peut-être été le premier ministre d'Alain Juppé défendre la vision qui était celle d'Alain Juppé. Alors, et jusqu'au même à l'oubli d'un élément essentiel, je pense, dans les angoisses des Français, il y a un sondage du JDD qui dit que la première priorité des Français dans la hiérarchie des périls est le recul de l'islam radical, 67% devant les retraites et devant le chômage. Le mot islamisme n'a pas été prononcé par Édouard Philippe aujourd'hui, et cet aspect n'a pas du tout été évoqué. Et donc on retrouve l'identité heureuse d'Alain Juppé. Donc en fait, on a eu un discours, j'ai dit raffarinien tout à l'heure, maintenant on peut dire un peu juppéiste aussi.
Enfin, il a parlé quand même à un moment tout de même il y a eu un hommage rendu quand même à toutes ces personnes luttant contre le terrorisme.
Il a parlé du terrorisme sans jamais le nommer précisément. Le terrorisme, c'est
Emmanuel
le moyen.
Macron avait pris soin hier
il l'avait nommé.
D'en parler longuement et d'en parler avec des mots qu'on ne lui connaissait pas, justement. On le savait plutôt. Il a fait un peu du Manuel Valls, Emmanuel Macron, hier.
Thomas Guénolé, quand vous voyez justement, là, Édouard Philippe nous dit on danse sur un volcan, c'est vrai qu'ils ont été. Ils ont tapé assez fort la semaine dernière sur ces 8 milliards, finalement, de budget. La Cour des comptes, normalement, on n'en tient pas forcément rigueur. D'ailleurs, c'est juste des indications que donne la Cour des comptes. On n'est pas obligé d'en tenir rigueur. Il y a vraiment une volonté de se séparer de l'héritage de François Hollande avec ce genre de phrase?
Moi, ce que je trouve intéressant, d'abord, c'est que la Cour des comptes est censée être une institution qui fait un état des lieux, et c'est devenu manifestement un organe qui développe un programme politique. Et moi, j'ai un problème avec ça. La Cour des comptes doit rester à sa place. La Cour des comptes n'est pas là pour dire au gouvernement, voilà ce que vous devriez faire. Si vous aviez une vision rigoureuse des dépenses, vous devez faire telle politique, parce que ça, c'est en fait déguisé en seule méthode de bonne gestion possible, ce qui est un cap politique préconisé par les conseillers de la Cour des comptes, ce qui n'est pas leur mission, me semble-t-il. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je voudrais rappeler, quand on dit que les dépenses publiques en France sont particulièrement élevées par rapport aux autres pays d'Europe, c'est vrai. Mais on oublie toujours un petit détail, c'est que chez nous, on a un système de redistribution par l'argent public, par la sécurité sociale, qui est quelque chose de très singulier par rapport à d'autres pays d'Europe, et que si vous enlevez ça pour comparer ce qui est comparable, pardon, mais on a des niveaux de dépenses publiques qui sont comparables à ceux des États-Unis, et à ceux d'autres pays. En réalité, on passe son temps à faire des comparaisons entre la France et des pays qui, contrairement à elle, n'ont pas un niveau de redistribution sociale aussi élevé. Alors, et donc, encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable, sinon ça n'est pas rigoureux.
Rafik Smati.
On peut se rassurer comme on veut, mais...
Non, mais c'est pas se rassurer, c'est factuel.
La réalité, c'est que la France est le seul pays européen qui enregistre un déficit primaire. C'est-à-dire que si on enlève de notre budget la charge de la dette, nous sommes encore en déficit. Ah, mais c'est le seul pays européen
qui est
dans ce cas.
Ça n'est pas le seul, ça n'est pas vrai.
Même la Grèce enregistre un excédent primaire. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses. Vous parliez d'Alain Juppé tout à l'heure. Alain Juppé avait proposé, j'estime que ce n'était pas assez, mais il avait proposé 300 000 postes de fonctionnaires en moins, un changement de paradigme avec une augmentation avec la TVA sociale. Il n'y a rien de tout ça. Rien dans le programme.
Et pourtant, on a entendu Gérald Darmanin au lendemain du rapport de la Cour des comptes stopper l'inflation de la masse salariale, gouvernement, et surtout s'attaquer aussi en disant on va geler le point d'indice des fonctionnaires. C'est des choses qu'on pouvait retrouver quand même dans la primaire de droite assez régulièrement chez les candidats.
Mais des actes. Nous avons...
Ah bah apparemment, ça va être pris.
Je voudrais rappeler que le taux de chômage a doublé en Grèce et que le taux de suicide a explosé aussi. Ouais.
Ayez conscience que si nous prenons un point de taux d'intérêt en plus, la France est en situation de faillite. La situation n'est vraiment pas commode pour notre pays. Et le discours
pour les dettes publiques, pourquoi se financer sur les marchés si on a ce risque-là?
Non mais je vais vous dire, si aujourd'hui nous ne faisons rien, nous perdons toute souveraineté et toutes les idées, programmes, et y compris ceux de gauche,
on a perdu. Pardonnez-moi, on a perdu notre souveraineté quand on a décidé qu'on ne pouvait plus être financé par la Banque centrale.
On va y revenir. Dans un instant, l'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Le Premier ministre détaille sa feuille de route avec de nombreuses annonces, budget, santé, éducation. Édouard Philippe promet notamment un paquet de cigarettes porté progressivement à 10 euros, des vaccins obligatoires pour les enfants, une réforme du bac ou encore une loi pour simplifier les procédures de construction de logements. Un discours de politique générale de plus d'une heure, régulièrement applaudi par une large majorité pro-Macron. Sans surprise, les députés ont voté la confiance au gouvernement ce soir. 370 voix pour, 67 contre. Le chef du gouvernement a également donné le cap pour l'avenir de la sécurité sociale cet après-midi. Elle sera à l'équilibre à l'horizon 2020, selon lui. Édouard Philippe promet que d'ici la fin du quinquennat, les Français ne devront plus payer de reste à charge pour les lunettes, les soins dentaires ou encore les aides auditives. Notre stratégie de santé devra rompre le cercle vicieux du renoncement aux soins, affirme le Premier ministre. C'est une information France Info. La directrice de communication de Business France, entendue par les enquêteurs il y a 15 jours après une perquisition qualifiée de fructueuse. Il s'agit de l'enquête sur les soupçons de favoritisme dans l'organisation d'un voyage d'Emmanuel Macron à Las Vegas en janvier 2006, alors qu'il était ministre de l'économie. Il est reproché à l'agence Business France d'avoir confié sans appel d'offres l'organisation de ce déplacement à la société Havas. Il avait été blessé à Mossoul le mois dernier par l'explosion d'une mine. Le journaliste Samuel Forêt remporte le prix Albert Londres 2017 pour ses reportages publiés dans Le Figaro sur la bataille pour reprendre la deuxième ville d'Irak aux combattants de l'organisation État islamique.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Eh bien, Vincent Trémollet, vous voyez finalement Le Figaro.
Voilà, Samuel Forêt reçoit le prix Albert Londres, je pense que c'est absolument mérité.
C'est vrai que c'est des très beaux
reportages. Et c'est en plus un prix qui prend une dimension tragique vu ceux qui l'accompagnaient et qui ont laissé leur vie.
Alors Vincent Trémollet, voilà, du Figaro, l'entrepreneur Rafik Smati également, Laure Breton de Libération et le politologue Thomas Guénolé. Voilà les gens qui nous accompagnent ce soir. On parle du discours du Premier ministre de politique générale. Laure Breton, juste un mot sur Édouard Philippe. Il n'est pas issu de la majorité, il n'a pas soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Pourtant, il est Premier ministre. Est-ce que il est isolé? Est-ce que une nouvelle fois l'acte d'Emmanuel Macron de passer avant lui au niveau du discours, est-ce que ça l'a encore plus isolé que là où, qu'auparavant.
Alors déjà deux choses, effectivement j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à être restée avec l'ancien monde. Édouard Philippe n'est pas issu de la majorité, mais cette majorité n'existait pas il y a deux semaines. Ça, donc elle est composée de gens de droite, de gauche, il y a des constructifs, il y a un petit peu de tout, c'est on n'y retrouve pas trop ses petits, c'est pas très bien rangé pour moi qui suis vraiment pour le coup avec mes codes d'avant. Donc en fait, on peut dire qu'effectivement une majorité, on avait vu, il y avait des études qui étaient faites, hein, une majorité des candidats étaient plutôt issus des rangs de la gauche, en tout cas des associations, ou des gens qui avaient des applications, enfin des mandats locaux plutôt classés à gauche. Je crois que surtout, il n'est pas isolé quand on voit le discours qui était un petit peu stratosphérique d'hier, et c'est le discours de la méthode. On a bien vu, on croyait qu'il y aurait good cop, bad cop, on croyait qu'il y aurait régalien institution d'un côté, et puis le calendrier, et puis le sang et les larmes de l'autre. Je trouve que ça s'est assez bien réparti. Alors, dans la médiocrité, si c'est ce que vous avez, si c'est votre sentiment, moi je trouve que ça s'est finalement, paradoxalement, ce discours de présidentiel qui était un peu creux, qui était un peu étonnant, a laissé pas mal de place au Premier ministre.
Mais justement, il a servi à quoi, Vincent Trémollet, finalement, ce discours avant d'Emmanuel Macron? Là, on a compris. Édouard Philippe, c'est assez classique. Il a énoncé finalement les pistes, il a parlé d'économie, de santé. À quoi ça a servi, Emmanuel Macron, finalement? C'est un exercice
peut-être
comme ça.
Peut-être qu'il fallait épuiser les symboles de la liturgie du pouvoir et donc il fallait terminer par Versailles.
Exact,
mais tout à l'heure, Laure Breton disait on attendait, et c'est vraiment le mot, parce que soyons sincères, on attendait cette réunion du Parlement, la capacité qu'avait montré Emmanuel Macron depuis son élection à tourner le dos aux candidats pour se montrer à la hauteur de sa charge, faisait qu'on se disait ça va être le bouquet final d'un mois et demi de symbolique. Et en fait, on a retrouvé l'homme des meetings. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le candidat avec des phrases très longues, avec un rythme qui n'y est pas, avec une éloquence qui ne remplit pas la salle. Et donc, l'utilité, ils veulent faire tous les ans. Donc, c'est bien qu'il y en a une. Mais pour l'instant, l'utilité politique ne s'est pas imposée. Ça devait être une démonstration de renouvellement politique. Et pour le moment, c'est un peu insaisissable.
Thomas Guénolé.
En fait, pour moi, ça s'inscrit effectivement, je suis complètement d'accord avec Vincent là-dessus, dans une stratégie de communication globale d'Emmanuel Macron qui consiste à avoir voulu vraiment surjouer les symboles du pouvoir suprême et en allant chercher assez loin, c'est-à-dire que le Louvre, qui est un symbole royal, Versailles, qui est un symbole royal, les Champs-Élysées qu'il remonte avec un char, ça n'a pas été beaucoup souligné, mais c'est quand même le dispositif du triomphe romain. C'est le triomphe du général romain.
Oui.
Remonter sur un char les Champs-Élysées, pardon, mais voilà. Et j'ajoute le discours au Congrès, au Parlement réuni en Congrès pour le faire tous les ans, c'est copié sur quoi? C'est l'acte solennel, le plus solennel disponible pendant son mandat, du président des États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale. Et donc, on est dans une volonté d'essayer, y compris dans les images aussi, la façon, les déplacements, le sous-marin nucléaire, le feu nucléaire, etc. Le fait d'essayer d'incarner au maximum, par tous les symboles possibles et imaginables, la fonction présidentielle. Pourquoi? Parce que comme tous les président de la Ve République, avant lui, depuis De Gaulle d'ailleurs, il y a une volonté de chercher à faire président le plus vite possible une fois que la personne est entrée en fonction. Mais c'est vrai que dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup plus poussé, je trouve,
parfois ça rate, parce que moi je trouve, enfin personnellement, la réception de Vladimir Poutine à Versailles, on comprend bien la volonté d'en mettre plein la vue à Vladimir Poutine, de dire c'est moi, d'une certaine manière c'est moi le roi, c'est pas toi l'empereur, c'est pas toi le tsar. Mais moi ça m'avait à l'époque vraiment beaucoup choqué, parce que ça avait permis à Vladimir Poutine, on est reçu à l'Élysée, on est reçu par le président, on a les drapeaux français, on a les drapeaux européens, on est reçu dans un cadre présidentielle. On est reçu à Versailles, certes, alors c'est grand, c'est beau, c'est magnifique, le cadre est magnifique, mais ça a permis au président russe d'avoir son écriteau sur sa tribune, écrit en russe, avec nulle part écrit France, avec écrit Versailles en russe. Donc pour les médias russes, c'était tout bénef. On avait une image du président russe avec son enveloppe d'une certaine manière royale et impériale. Et moi, je trouve que d'un point de vue de... C'était pas heureux. Et deuxième chose, le discours de l'État de l'Union. Excusez-moi, mais c'est un discours qui dure 20 à 25 minutes.
Mais c'est ça, mais c'est pas
qui est un discours où tous les parlementaires participent beaucoup et qui est un point très précis sur la situation 6 semaines, 7 semaines après l'élection d'Emmanuel Macron, c'était un petit peu compliqué de faire un point sur toutes les réformes qu'il avait lancées ou qu'il avait
réussi. On peut s'interroger sur le rapport de Macron à Versailles. Si on reprend ses textes et notamment sa réflexion
sur... Est-ce qu'on peut pas s'interroger aussi sur la Ve République et le côté monarchiste, tout simplement?
Enfin, voilà, il y a un moment. Mais lui, sa volonté de le restaurer, sa réflexion, vous vous souvenez sur le fait que depuis la mort du roi, il y a une incomplétude au sommet du pouvoir. C'est lui qui prononce cette phrase, qu'il écrit dans le 1 il y a 3 ans. Et le fait de pouvoir venir tous les ans est quand même significatif. Et je voudrais rappeler que sur la magnifique voûte de Lebrun à la Galerie des Glaces, au centre, il y a Louis XIV qui est peint avec écrit « Le roi gouverne par lui-même » pour signifier qu'il n'a pas besoin ni de ministre, ni de premier ministre, ni de gouvernement. Ça fait songer à certaines personnes.
Il semble au début de Louis XIV, à Louis XIV jeune, c'est vrai.
En tout cas, depuis le début de l'élection d'Emmanuel Macron, on a beaucoup révisé l'histoire et même l'Antiquité. Voilà, c'est déjà un des progrès, hein, peut-être, en tout cas dans la politique
française. Oui, on n'a pas parlé du Jupiter et Hermès, là, c'est le délire collectif.
Attention, Jupiter en fout ce qu'il veut perdre.
S'il vous plaît, voilà, on va continuer et en parler économie également, politique, et on parlera aussi d'autres politiques, puisqu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Voilà la suite du programme des Informés de France Info.
Vous avez de l'argent de côté. De son côté, cet argent dort.
La financière de l'Échiquier prend soin de votre épargne. Parlez-en à votre conseiller. La financière de l'Échiquier, des valeurs à partager.
Je suis Johan, arboriculteur dans la Drôme. Vous cherchez de bons abricots bergerons français ? Ils sont arrivés. Je les ai cultivés avec passion et avec toutes les forces de la nature. Car mes vergers sont éco-responsables. Ils préservent la biodiversité, les sols, les ressources en eau. Découvrez-les sur pêcherabricotsdefrance.fr.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore une belle journée d'été demain, du soleil pour tout le monde. Il faudra quand même composer avec des nuages élevés entre la Bretagne, la Vendée, la Normandie et l'Orléanais. Malgré tout, l'impression sera très belle. Un peu de grisaille le long de la Manche et vers le littoral du Languedoc-Roussillon le matin, mais on n'en parlera plus l'après-midi. On n'oublie pas le vent, un vent d'autan à 60 km à l'heure qui soufflera jusqu'au midi toulousain. Les températures seront très élevées, pas moins de 13 à 20 degrés le matin. L'après-midi, 23 degrés à Cherbourg, 27 à Lille, 30 à Brest, Strasbourg, Marseille, Bastia, 32 degrés à Paris, 33 degrés à Laval, Dijon et Lyon, 34 pour Nantes, Limoges, Albi et jusqu'à 36 degrés à Mont-de-Marsan.
Au large comme sur la plage, les sauveteurs en mer sont toujours prêts à vous secourir. Soyez prêts à les soutenir.
Faites un don aux sauveteurs en mer sur jesoutiens.snsm.org.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Martin Bartoletti. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Avec 370 voix pour, Édouard Philippe obtient la confiance de l'Assemblée nationale. Un large succès qui n'est pas considéré comme un blanc-seing selon le chef du gouvernement. Seulement 67 députés ont voté contre le Premier ministre, c'est un record. Record également du côté de l'abstention, 129 élus sont restés silencieux. Avant le vote, Édouard Philippe avait déroulé la feuille de route gouvernementale dans un discours d'une heure. Parmi les mesures annoncées, il y a notamment la réforme du bac prévue pour 2021, 11 vaccins pour la petite enfance deviendront obligatoires et les fumeurs devront progressivement débourser 10 euros pour acheter un paquet de cigarettes. Les sénateurs votaient aussi en fin de journée. Le Sénat a adopté pour la 6e et dernière fois la prolongation de l'état d'urgence. Le gouvernement souhaite remplacer le régime d'exception par une loi antiterroriste. Elle est présentée comme l'un des témoins clés dans l'affaire du petit Grégory. Muriel Boll reste en prison. Cette femme de 48 ans est en détention depuis jeudi dernier. Elle est mise en examen pour enlèvement suivi de mort. La justice la soupçonne d'avoir accompagné son beau-frère Bernard Laroche lors du rapt de l'enfant en 1984. Elle avait d'ailleurs reconnu face aux enquêteurs il y a 32 ans avant de changer de version sous la pression familiale. Laurélie Carry va assister à l'audience pour France Info.
La chambre de l'instruction a rejeté la proposition faite par l'avocat de Muriel Boll, à savoir une remise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire strict. Un problème d'adresse, selon maître Jean-Paul Tessonnière. Il avait proposé que sa cliente soit domiciliée en Alsace, loin du huis clos familial de la vallée de la Vologne. Sauf que le nom de ce parent censé l'héberger apparaît dans le dossier de l'affaire Grégory. La justice a donc dit non. Une façon d'éviter toute concertation au sein de la famille, alors que d'autres membres pourraient être entendus prochainement. C'est avec une grande tristesse Metz que Muriel Boll a accueilli la nouvelle, d'autant que sa détention à la maison d'arrêt de Dijon est difficile. Elle se dit malmenée, insultée par les autres détenus. À la sortie de la cour d'appel, l'avocate des parents de Grégory Villemain lui a adressé un message. Même 32 ans après la mort de l'enfant, il n'est jamais trop tard pour parler, jamais trop tard pour faire éclater la vérité. Dijon, Yves Lehorse, Laurélie Carive, France Info.
L'Union européenne pourrait sanctionner la Corée du Nord. Elle réagit après le nouveau tir effectué par Pyongyang aujourd'hui. L'UE envisage une réponse appropriée qui s'additionnerait à celle des Nations Unies. Cela peut passer par des mesures restrictives, selon le porte-parole du service diplomatique de l'Union. Le régime de Kim Jong-un affirme que le missile lancé a une portée intercontinentale, ce qui serait un pas de plus pour menacer les États-Unis du feu nucléaire. Et puis Peter Sagan sort du peloton de la grande boucle. Le champion du monde slovaque paye son mauvais geste à l'arrivée de la quatrième étape aujourd'hui. Un coup de coude sur Mark Cavendish a fait chuter le Britannique qui a été hospitalisé. C'est le champion de France Arnaud Démare qui l'emporte à Vittel et signe son premier succès sur le Tour. Le Gallois Geraint Thomas conserve le maillot jaune. Demain, le peloton a rendez-vous avec la première difficulté du Tour et un final à la planche des belles filles. 20h33, c'est le retour des informés sur France Info.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils nagent dans l'actualité comme des hippocampes dans l'océan. Nous sommes poètes. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Laure Breton de Libération, l'entrepreneur Rafik Smati, Vincent Trémollet du Figaro et le politologue Thomas Guénolé. Alors cet après-midi, nous avons vécu un moment historique. Bah oui, hein, puisque c'est peut-être la dernière fois, sauf dissolution, qu'un Premier ministre décline un discours de politique générale devant 577 députés, puisque lors de son discours de Versailles hier, Emmanuel Macron a souhaité la réduction d'un tiers du nombre de députés et de sénateurs. Depuis, les avis sont assez partagés entre ceux qui approuvent et ceux qui craignent une plus grande désertification des territoires. Rafik Smati, est-ce que pour vous, c'est une mesure véritablement utile, cette diminution aujourd'hui des parlementaires ?
Il est évident qu'en France aujourd'hui, nous avons trop de parlementaires eu égard à la population qui est la nôtre. Maintenant, en termes de d'optimisation des dépenses publiques, c'est une mesure symbolique, mais ça ne pèse absolument rien.
Absolument rien.
Absolument rien. Je voudrais simplement ouvrir une parenthèse. Allez-y, sur Versailles. Parce que
j'ai coupé la chic tout à l'heure.
Ce qui s'est passé à Versailles est extrêmement intéressant. Emmanuel Macron est en train de réhabiliter la fonction présidentielle. Et quelque part, il arrive après François Hollande, et c'est pas plus mal. Seulement, il est en train d'aller un peu loin. Et oui, il faut avoir de l'ego pour être président de la République. Mais il faut mettre son ego au service de la France. Et ce qu'est en train de faire aujourd'hui Emmanuel Macron, il est en train de mettre la France au service de son ego. Et là, ça pose un vrai problème. Utiliser les symboles républicains pour satisfaire son ego qui est lié, on en parlait tout à l'heure, un lien avec la royauté qui est extrêmement surprenant, ce n'est pas ça être président de la République. Donc, un point de vigilance absolument essentiel.
Mais Nicolas Sarkozy, par exemple, lui-même, quand il avait souhaité, c'est lui qui a fait voter cette fois cette possibilité pour le président de s'exprimer devant le Congrès à Versailles. Est-ce qu'il n'avait pas les mêmes dérives ?
Non, mais globalement, écoutez, vous avez vu Bruno Le Maire la semaine dernière dire qu'il était le messager Hermès de Jupiter. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils vivent complètement sur notre planète. Alors, je veux bien que ça soit de l'humour, mais vous dites que c'est pas de l'humour. Alors, c'est pire encore. Non, mais franchement, mais où vit-on ? Je crois que nous avons affaire à des dirigeants politiques qui ont rarement été aussi hors sol que ceux que nous avons aujourd'hui en place. Et quand on prétend incarner la société civile, quand on prétend incarner le renouveau politique, mais on est à des années-lumière de ça. C'est ça la réalité aujourd'hui.
Alors Thomas Guénolé, juste, je reviens sur ces parlementaires, réduction de parlementaires. Pour vous, est-ce que c'est utile ? On sait quand même que certains, donc aujourd'hui députés, craignent finalement de couper ce lien entre les élus et la population, parce qu'il y a certains départements, en effet, où il n'y a qu'un député, hein, comme la Creuse, la Lozère, parce que bon, il y a moins d'habitants également. Est-ce que pour vous, c'est une mesure importante et qui servirait à quelque chose ?
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui sont d'accord avec ça. Oui, il faut moins de parlementaires. Il y en a marre, ils sont trop gras, trop bien nourris, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. D'abord, je pense effectivement que c'est de la démagogie en utilisant l'argument financier, parce que le total des dépenses liées aux députés, c'est une goutte d'eau par rapport à l'océan. Des dépenses publiques qui pourraient être réduites, car il y en a quand même, confirme notre discussion précédente. Je rappelle que à la louche, 577 députés, à la très grosse louche, ça veut dire, corrigez-moi si je me trompe, que chaque député représente en moyenne quelque chose un peu moins de 100 000 habitants. Bon, ben moi, ça ne me paraît pas particulièrement excessif comme nombre de députés par rapport à la population.
On est dans la moyenne
donc,
européenne.
Donc, pour moi, voilà. D'abord, on est, non, quand bien même on serait
plutôt
pas,
dans les bons élèves.
Et quand bien même on ne serait pas dans la moyenne européenne, voilà, un député pour un peu moins de 100 000 habitants, je ne suis pas choqué. Pour moi, la véritable urgence, c'est la réforme du mode de scrutin. On en a déjà parlé d'ailleurs sur votre plateau. C'est pour que, pour moi, garder un mode de scrutin qui donne une répartition des sièges entre les courants politiques qui est totalement déconnecté du rapport de force réel entre les courants politiques dans la population, c'est ça la véritable urgence.
Et donc, quand Emmanuel Macron propose une dose proportionnelle, vous êtes plutôt pour.
Je suis complètement d'accord avec ça, mais ce qui m'agace par contre, c'est tous les gens qui disent il faudrait 10%, il faudrait 20%, et pourquoi 10, pourquoi 20, pourquoi 20 et pas 30, pourquoi 30 et pas 40. La seule règle qui aurait du sens, c'est de dire on met dans l'Assemblée à égalité deux légitimités, la légitimité des idées et la légitimité des territoires, et dans ce cas-là, c'est 50-50. Et il y a une Assemblée qui fait ça très bien, ça s'appelle le Bundestag, c'est comme ça qu'on fait en Allemagne. D'ailleurs, j'en ai parlé dans les colonnes du Figaro,
Je le dis facilement. C'est incroyable, tout est dans le Figaro ce soir.
Non, mais c'est vrai.
Justement, Laure Breton, vu le niveau de popularité de la classe politique, hein, ils sont un peu juste au-dessus des journalistes, hein, d'ailleurs, c'est-à-dire, quand Emmanuel Macron dit, voilà, est-ce que si ça ne passe pas, il menace de passer par référendum, est-ce qu'il prend un risque finalement avec ça?
Alors, je pense pas qu'il prenne un risque. Je pense surtout qu'il a fait quelque chose qui était assez tout en disant qu'il faisait attention de pas faire de l'antiparlementarisme. En tout cas, c'est comme ça que l'Élysée a fait le service après-vente hier. Je pense que c'est une idée extrêmement populaire. Nicolas Sarkozy le disait déjà. François Hollande l'avait évoqué dans son grand discours sur les institutions avant de finalement ne pas être candidat. Donc, c'est quelque chose que les Français veulent. Après, est-ce que c'est justifié? Moi, je suis d'accord. On n'est pas juste dans la moyenne. On est dans les très bons élèves. Moi, j'ai les chiffres de 2014, on est plutôt à un député pour 113 000 Français. Les Espagnols, c'est 1 pour 134 000, c'est eux qui sont tout en haut. Mais après, on a les Belges, c'est 1 pour 74 000. Donc, c'est moitié moins. Oui. Donc, en fait, bon, faut voir où est l'efficacité. Moi, ce que je trouve très étonnant, c'est que, par rapport à Emmanuel Macron, c'est que finalement, cette menace de référendum, elle est plutôt pour tenir, une fois de plus, sa majorité. Mmh. C'est-à-dire qu'elle dit, si vous votez pas la proportionnelle, si vous votez pas la réduction du nombre de parlementaires, moi, j'ai le pouvoir de dissoudre. Et donc, en fait, vous disparaissez tout de suite. Donc, il tient tout le monde. Dernière chose, ce sera sur des listes régionales. Donc ça fait des élus qui ne seront pas élus du même territoire en fait. On aura des élus de grandes régions et on aura des élus de terrain. Donc je suis pas sûre que ce soit une très bonne chose.
Ça a des conséquences. C'est évidemment une mesure cosmétique ou symbolique, mais en fait qui a des conséquences en chaîne et peut-être qui peut arriver à une conséquence très grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Emmanuel Macron considère que s'il a pas le vote du Parlement, il aura un référendum qu'il gagnera parce que les gens aiment pas les députés. Mais dans un an ou dans un an et demi, on n'en sait rien. Et donc cette tentation plébiscitaire peut se retourner contre lui et les perdants de la présidentielle peuvent se dire on a l'occasion de reprendre la parole. Donc moi là je pense qu'il met le doigt, c'est exactement comme la loi de moralisation, peut-être qu'on en parlera.
On va en parler dans un instant.
Il met le doigt par volonté symbolique dans des choses qui au fait ont des conséquences très profondes et qui peuvent avoir à tirer ça comme un boulet pendant les 5 ans qui viennent.
Allez, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Édouard Philippe s'engage à ramener le déficit public sous la barre des 3% d'ici fin 2017. C'est la principale annonce budgétaire du discours de politique générale du Premier ministre. L'impôt sur la fortune, elle sera bien recentrée sur l'immobilier, mais la réforme entrera en vigueur en 2019. Le chef du gouvernement annonce un plan d'investissement de 50 milliards d'euros en 5 ans. Autre mesure dans le domaine de la santé, cette fois, le paquet de cigarettes va progressivement passer à 10 euros. Et le gouvernement repart ce soir avec la confiance des députés, 370 voix pour, 67 contre. Édouard Philippe promet également l'accès au très haut débit d'ici 2022 partout en France. Le gouvernement se laisse le quinquennat pour mettre en place un pacte avec les collectivités afin, dit-il, de réduire l'écart entre la France des métropoles mondialisées et la France périphérique. Le prêtre accusé de pédophilie reconnaît les faits dans le diocèse de Saint-Étienne, âgé de 84 ans aujourd'hui. Il ne nie pas ce qu'on lui reproche, mais ignore combien de victimes il a pu faire. C'est ce que rapporte ce soir l'évêque de Saint-Étienne à nos confrères de France Bleu, précisant que depuis l'an 2000, à 3 reprises, des victimes se sont manifestées et à chaque fois, les faits ont été signalés à la justice. Le champion du monde quitte le peloton. Vainqueur de l'étape d'hier, le Slovaque Peter Sagan exclu ce soir du Tour de France. Conséquence d'un sprint agité à l'arrivée de l'étape du jour à Vittel, les commissaires de l'Union cycliste internationale lui reprochent un violent coup de coude, étape remportée par le Français Démare.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore un mot à propos du discours de politique générale du Premier ministre. On a parlé de différents sujets et puis bien sûr à la fin, il y a un vote. Il a eu une large majorité, hein, bien sûr, Édouard Philippe, 370 voix pour, 67 contre, 129 abstention, voilà, c'est un record hein, d'abstention, comme quoi le gouvernement colle vraiment à la société française, hein, puisqu'il y a des records d'abstention dans tous les sens, même à l'Assemblée nationale. Ce qui est assez frappant quand même, Laure Breton, c'est le groupe Les Républicains, puisqu'ils ont 100 députés et les trois quarts se sont abstenus. Ils sont dans l'abstention, pourquoi n'ont-ils pas voté contre ?
En fait, je viens de l'Assemblée et je croisais un élu LR qui disait, bah, dans ces conditions, on ne sait pas si on a vraiment besoin d'un groupe constructif, effectivement, puisque tout le monde se met à s'abstenir. Je crois qu'il y a un nouveau... Il y a un nouveau laïus, il y a un nouveau élément de langage qui est « je veux que le pays réussisse ». Je pense que les élus LR sont retournés, depuis qu'ils ont été élus, sont retournés dans leur circonscription. Tout le monde dit « il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues de ce président, il faut lui donner les moyens d'agir ». On est encore dans cette espèce d'état de grâce assez incompréhensible finalement, mais... qui perdure. Et les élus LR sont un peu de l'ancien monde et se disent « bon bah là, il faut peut-être donner... » une chance au nouveau monde.
Ce discours, il est très répandu, vous avez raison, mais il ne tient pas du tout la route démocratiquement. C'est-à-dire qu'une opposition a jamais empêché, surtout avec la majorité pléthorique qu'a Macron, un pays de se réformer. Donc en fait, les élus acceptent un principe qui est un principe de non-existence politique. Moi, j'avoue que ça me sidère, ça ressemble quand même à une forme de suicide pour certains.
Rafik Smati, comment vous la voyez, l'opposition ? C'est de droite comme de gauche. Aujourd'hui, on voit la droite, les Républicains, les trois quarts s'abstenir, alors qu'à gauche, ça a été beaucoup plus simple. Hein. Les Insoumis ont tous voté contre, majoritairement également le groupe communiste. Chez Nouvelle Gauche et les ex-PS, il y en a trois hein, qui ont voté pour, les autres ont voté contre. C'est plutôt simple. Qu'est-ce qui s'est passé à droite.
Ce que tout cela démontre, c'est l'absence de vraie colonne vertébrale idéologique aujourd'hui à droite. On est face à des parlementaires de droite qui, pour la plupart, ne sont habités par aucune vision de la France, qui vont rentrer dans une logique de picorette. En gros, parfois ils vont être pour, parfois ils vont être contre, mais quelle est leur vision de la société ? Et pourtant, il y a matière et devoir apporter une voie nouvelle sur au moins deux sujets face à En Marche. Un, la dépense publique, c'est un sujet essentiel, c'est notre souveraineté, je l'ai dit tout à l'heure. Et deux, c'est le rapport à l'identité, à la nation, à l'immigration et à tous ces sujets-là. Sur ces deux points, il y a la nécessité impérieuse d'incarner une voix face à En Marche aujourd'hui. Et je suis lamenté de voir que l'opposition des Républicains aujourd'hui est dans une totale capitulation, mais qu'à cela ne tienne, la nature a horreur du vide et nous allons... investir ce champ-là.
Ah très bien, investir ce champ-là, très bien, de votre part. Thomas Guénolé.
En fait, pour moi, la droite n'est pas allée au bout de la sincérité. C'est-à-dire que nous avons eu un discours de politique générale et un programme plus généralement et des priorités d'Emmanuel Macron qui ne concernent quasiment que, en réalité, l'économique et le social, le programme économique et social. Et sur ces questions-là, la droite est d'accord avec Emmanuel Macron. Sur l'essentiel.
Qui sont bloqués.
Et donc, de mon point de vue, s'ils avaient été complètement honnêtes, en fait, ils auraient même dû carrément voter pour. Mais, admettons qu'ils se contentent de s'abstenir. S'abstenir, qui ne dit mot consent, vous savez. Donc, vous vous abstenez, vous laissez passer le train. Et en l'occurrence, on a donc une assemblée qui, dans des proportions écrasantes, est soit macroniste, soit Macron compatible. Donc, je rejoins ce que disait Vincent tout à l'heure. On a un énorme problème de déconnexion de l'attitude de vote de l'assemblée et des rapports de force, par rapport à la réalité politique du pays. Car cette politique économique, je voudrais le rappeler, la politique économique de la mondialisation censément heureuse, mais eh bien, elle est considérée comme une politique de mondialisation malheureuse par plus de la majorité, de la moitié de l'électorat français.
Et donc, sujet après,
pardon, mais c'est juste pour dire, on a un problème de déphasage qui est un ferment de, comment dire, de cassure politique. C'est extrêmement dangereux.
Le président
d'où l'urgence, c'est pour ça que je disais, c'est pas qu'un sujet institutionnel, d'où l'urgence de modifier le mode de scrutin à l'Assemblée parce qu'elle est hors sol.
Là, surtout, ça instaure une forme de vote de classe et un système entre Mélenchon et Macron, où Macron serait le gouvernement raisonnable et Mélenchon serait le tribun de la plèbe. Mais ça, c'est très, très dangereux parce qu'il y a
un moment... On retombe sur Rome, hein, c'est les patriciens contre les
plébéiens. Mais ça crée une dialectique binaire qui est infernale. C'est-à-dire que le principe d'un parti politique, c'est qu'il mêle tous les ordres sociaux et toutes les classes sociales. Et si vous avez avez ceux qui gouvernent, qui sont la classe des inclus, et ceux qui sont exclus, qui vont chercher l'instrument de la révolte, qui sera Mélenchon ou un autre, on se dirige vers un quinquennat compliqué. Alors, et une élection de 2022 inquiétante.
Laure Breton, vous vouliez rajouter, je crois, vous me faisiez signe tout à l'heure quand on avait parlé. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Non, c'est ça, non, d'accord. C'est moi qui interprète. Voilà, j'interprète, je vois des signes partout maintenant. Alors, bien sûr, le discours de politique générale d'Edouard Philippe nous a occupé tout l'après-midi, faisant même sauter l'instant chocolat et tartine. Voilà, sacré à France Info, nous sommes encore de grands enfants. Deux autres actualités, enfin, surtout une actualité, celle qui concerne le gouvernement, toujours avec cette fois-ci la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Donc, ministre du Travail au cœur de l'affaire du déplacement d'Emmanuel Macron en janvier 2016. Alors, dirigeante de Business France, cet organisme, accusée de ne pas avoir fait d'appel d'offres pour le déplacement du ministre de l'Économie. Alors que les principaux arguments de défense de Muriel Pénicaud reposent sur le fait qu'elle aurait, je cite, immédiatement déclenché un audit interne et externe et, toujours je cite, alerté le conseil d'administration. Eh bien, Libération, voilà, affirme qu'elle n'a en fait informé son conseil d'administration qu'en décembre 2016. Soit presque un an après la réunion de Las Vegas, alors que trois ministres n'ont pas été reconduits, un autre exfiltré, Muriel Pénicaud, est resté à son poste. Et la suite, eh bien, dira bien son avenir, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner.
Est-elle assurée aujourd'hui de son maintien au gouvernement ?
Écoutez, c'est à l'enquête de le dire. Il y a une règle simple rappelée par le Premier ministre. S'il y avait une mise en examen, y compris dans le dossier qui la concerne, où on parle quand même juste d'un dépassement d'un seuil de marché public pour une manifestation internationale qui s'est tenue à Las Vegas, mais s'il y avait une mise en examen de Muriel Pénicaud, elle devrait quitter le gouvernement.
Voilà, Christophe Castaner sur Europe 1 ce matin. Laure Breton, c'est à l'enquête de le dire.
Une petite précision par rapport à nos révélations. Oui. Non seulement elle informe tardivement, mais elle informe surtout à base d'un rapport qu'elle a tronqué, enfin qui élude un peu, qui efface un peu sa responsabilité. Et le journal du dimanche, puisque toute la presse s'est mise à enquêter sur l'affaire, révélait dimanche que certains au sein de ce conseil d'administration étaient très inquiets justement de la désinvolture avec laquelle ce marché public avait été passé.
Est-ce que ce que dit Christophe Castaner ce matin, porte-parole du gouvernement, c'est à l'enquête? Voilà maintenant de dire.
Je vois pas trop ce qui peut répondre d'autre. C'est vrai qu'on a une espèce d'hécatombe de ministres qui décident de partir d'eux-mêmes, puisqu'on a bien raconté cette histoire sur les trois ministres MoDem. Emmanuel Macron n'aurait pas demandé leur démission, mais ils sont partis au stade d'une enquête préliminaire, ce qui est très nouveau, effectivement. Ouais. On avait cette règle, pas des reins, mais on avait cette règle qui était quand on est mis en examen, on s'en va. Je pense que ce nouveau monde, cette nouvelle vague de transparence, que veut Emmanuel Macron, passe par là, la moralisation. Passe par là.
Alors c'est ça justement.
Les gens tombent les uns après les autres.
Macron veut l'arrêter. Juste une chose, Rafik Smati, on a entendu le président de la République hier à Versailles. Aujourd'hui, Premier ministre à l'Assemblée nationale, parler de ça à demi-mot. Ça veut dire en gros, Emmanuel Macron a dit « moi je n'aime pas cette société du soupçon ». Édouard Philippe a dit « moi je ne suis pas très à l'aise avec cette transparence intégrale ». On voit bien de quoi il parle des différentes affaires. C'est-à-dire ce que François Bayrou avait dit, c'est l'ère du soupçon. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'on est dans l'ère du soupçon ou un ministre avant démissionné quand il était mis en examen, maintenant quand il est soupçonné? Est-ce que ça va trop loin?
C'est un sujet de fond qui me met très mal à l'aise parce qu'effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé pendant la campagne de François Fillon et il y a eu lynchage, etc. Et puis comme par hasard, maintenant, il faudrait que les règles soient différentes. Fondamentalement, je vais vous faire une confidence, je suis contre la jurisprudence Balladur.
C'est-à-dire dès qu'un ministre est mis en examen, il doit démissionner, vous êtes contre?
Oui, parce qu'à un moment donné, on voit bien que c'est une façon de fondamentalement, je ne parle pas de ce cas précisément, ça peut prêter le flanc à des manœuvres, à des manipulations. Et quelque part, il faut que la justice puisse avoir le temps de faire son travail sereinement sans influer sur le cours d'un gouvernement. Mais il y a eu ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle, dont je considère qu'elle a été volée. Et à partir de là, plus rien ne sera jamais comme avant, hélas.
Allez, on continue justement à parler de Muriel Pénicaud. Dans un instant, l'info à 20h50. Pierrick Bonneau.
Marine Le Pen dénonce un discours de politique générale au ras des pâquerettes, mais les annonces d'Edouard Philippe sont très nombreuses ce soir. Budget, santé ou encore éducation, le Premier ministre s'engage notamment à faire baisser la dépense publique de 3 points du PIB et la pression fiscale d'un point au cours du quinquennat. Édouard Philippe veut réformer le baccalauréat, améliorer les remboursements de certains frais de santé ou encore augmenter le prix du paquet de cigarettes de 3 euros d'ici 5 ans. Le gouvernement Philippe obtient ce soir un large vote de confiance de l'Assemblée, 370 voix pour, 67 contre. On l'a appris en fin d'après-midi, Muriel Boll reste en détention provisoire dans l'affaire Grégory. Décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon. Témoin clé de l'affaire Grégory en 1984, la belle-sœur de Bernard Laroche est depuis quelques jours suspectée d'enlèvement dans ce dossier. Muriel Boll a 48 ans aujourd'hui mais n'avait que 15 ans au moment des faits. L'Autriche va rétablir des contrôles aux frontières avec l'Italie. Vienne a déployé 4 véhicules blindés près de sa frontière sud pour faire face à un éventuel afflux de migrants. Des contrôles seront mis en place très prochainement, annonce des fonctionnaires du ministère de la Défense autrichien. À Wimbledon, Yael Monfils se qualifie pour le deuxième tour du tournoi en battant sans difficulté l'Allemand Daniel Brands en 3-7. Richard Gasquet, quant à lui, battu d'entrée par David Ferrer en 4-7. C'est la première fois depuis 2006 que le Biterrois à 31 ans quitte si tôt le tournoi anglais.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Le Premier ministre cet après-midi a fait comme le Président, eh bien il a parlé de la morale. Forcément cette morale, on en parle depuis à peu près le 26 janvier dernier. Voilà, et du canard enchaîné de l'affaire Fillon, eh bien ça fait des petits. Et maintenant une loi sur la moralisation de la vie publique et politique. Muriel Pénicaud, Vincent Trémolin, elle porte le projet emblématique quand même de la loi travail. Est-ce que c'est ça aussi où ça va devenir problématique là?
Projet emblématique qui était moins emblématique dans le discours de, de politique générale. Mais je ne sais pas s'il y a un lien entre l'un et l'autre.
Voilà, dans son cas, est-ce que finalement ça n'en fait pas une cible là aujourd'hui?
Ça en fait une cible, mais on s'aperçoit, on dit souvent qu'Emmanuel Macron n'a fait aucune erreur entre son élection et maintenant, mais en fait, il y a un poison lent dans le macronisme qui est cette loi de moralisation. Pourquoi? Parce que depuis l'affaire Fillon, la morale a aboli la politique et la morale, on ne l'arrête pas quand on veut. Alors maintenant, le Premier ministre et le Président de la République disent l'ère du soupçon, c'est terminé, on arrête. Maintenant, on l'a fait un peu, ça nous a été utile en gros, mais maintenant on va s'arrêter là. Or, il y a une formule célèbre qui dit « quand la guillotine est en marche, personne ne sait comment l'arrêter ». Et là, on est dans un processus que moi, souvent ici, j'ai dénoncé parce que je pense que la transparence n'a pas de limite et qu'on cherche toujours plus pur que soi, qui fait que ça va être un poison pour Madame Pénicaud, on va voir comment ça va se terminer, mais pour tous les ministres du gouvernement, surtout que la jurisprudence Goulard, qui fait qu'on démissionne pendant une enquête préliminaire et plus quand on est mis en examen, crée une situation proprement intenable. Alors, je vois pas de solution.
C'est ça. Alors, Thomas Guénolé, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que Muriel Pénicaud a bénéficié d'un traitement de faveur par rapport aux autres. Parce qu'il y avait un soupçon, enfin si on reste sur le soupçon...
Non, c'est une conséquence d'une position d'Emmanuel Macron lui-même qui est qu'on n'a pas à démissionner tant qu'on n'a pas été mis en examen. Mmh. Et donc, et pour l'instant, ça en reste là. Moi, je suis sur une position encore plus... dur là-dessus. À titre personnel, je sais bien que je suis probablement tout seul là-dessus, mais moi je considère que un ministre a droit à la présomption d'innocence comme n'importe quel citoyen français, comme n'importe quel habitant du territoire national, et donc tant qu'il n'y a pas de condamnation en justice, j'ai bien dit de condamnation.
À condamnation, c'est
tant qu'il n'y a pas de condamnation, je voudrais rappeler quand même un moment, deux secondes, dans ce pays, on est présumé innocent tant qu'on n'a pas été condamné en justice.
Et je suis d'accord.
Et donc sur ce point-là, moi je suis désolé, tant qu'il n'y a pas de condamnation en justice, il n'y a pas à démissionner.
C'est-à-dire que pour vous...
Moi pardon, mais si demain dans mes activités professionnelles, moi personnellement, je suis mis en cause par une mise en examen ou je ne sais quoi, je ne vais pas démissionner pour ça et je vais quitter mon boulot de manière évidente si à un moment je suis condamné en justice. Pourquoi ce qui vaut pour moi ne vaudrait pas pour n'importe quel responsable?
Mais
il y a la présomption d'innocence. Je voudrais rajouter un élément.
Concernant François Bayrou, on se dit que le ministre de la Justice mise en examen, c'est la même chose.
Une mise en examen, n'est pas un verdict de culpabilité, encore une fois. Et j'ajoute, mais je veux dire, c'est profondément malsain. C'est même plus un jugement à l'emporte-pièce. C'est l'absence de jugement et le présumé coupable. Je ne suis pas d'accord avec ça.
C'est parfaitement.
On est en République.
Thomas, c'est qu'il y a eu un ministre une fois, Renaudin Diot-Vabre, qui a démissionné quand il a été mis en examen selon la jurisprudence, qui a été condamné et une fois qu'il a été condamné, qui a pu être de nouveau ministre.
En plus, ça peut devenir n'importe quoi. Je voudrais rajouter cependant, pour être complet, que en revanche, je ne suis pas d'accord avec les positions qui voudraient que les médias auraient à se limiter dans leur travail de contrôle. Pouvoir en termes d'investigation, ou la justice dans son travail d'enquête, etc. Je voudrais rappeler que ça, une démocratie ne va bien que si ces contre-pouvoirs font leur boulot.
Alors, on le sait, parce qu'il y a eu en effet plusieurs années croches, on en a parlé, on a fait un dossier ici entre vous, la Libération.
Non, mais il n'y a pas à leur reprocher de faire ce boulot.
Muriel Pénicaud, en effet, qui avait porté plainte, Christophe Castaner qui avait dit qu'il fallait laisser un peu travailler quand même.
Attention, Muriel Pénicaud avait porté plainte pour divulgation de documents secrets sur le projet de loi, sur la réforme du Code du travail, pas sur l'affaire.
Christophe Castaner qui récemment avait dit en point presse, il faut la laisser travailler, laisser la.
Il ne faut pas chercher
tranquille.
À affaiblir le gouvernement.
Voilà, et
surtout, nous a invité à ne pas.
Pour vous, justement, est-ce que ça va devenir un problème? quand même là pour le gouvernement, si on continue à creuser...
Au moment où on parle, dans 4 minutes, Muriel Pénicaud est devant la commission des affaires sociales pour défendre la réforme du Code du travail. On a vu que les Insoumis avaient déposé énormément d'amendements, mais je doute, enfin je suis absolument certaine que Jean-Luc Mélenchon, ses proches, vont utiliser cette tribune-là, effectivement, pour poser des questions sur la situation qu'ils disent intenable de la ministre du Travail. Donc je ne sais pas dans quelles conditions elle va travailler, si ça sera sereinement ou pas.
C'est ça qui est embêtant. Rafik Smati, pour vous aujourd'hui, quand on voit ce dossier, le Premier ministre, je l'ai dit tout à l'heure, s'est déclaré aujourd'hui finalement contre cette société de transparence. Ça va s'arrêter là avec l'affaire Pénicaud ?
Dans une démocratie mature et apaisée, ce type de situation ne devrait pas se poser. N'importe quel ministre, n'importe quel homme public devrait pouvoir aller au bout de son mandat jusqu'à la condamnation. Et je suis complètement d'accord avec vous. Et les contre-pouvoirs doivent pouvoir s'exercer librement. Et ensuite, un principe de responsabilité fondamentale. Si la personne en question sait qu'elle a quelque chose à se reprocher, si ça... ses supérieurs, le Premier ministre, le Président, savent réellement quelque chose. Et bien dans ce cas-là, effectivement, il faut en tirer les conséquences.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer pour ce soir. C'est un drame à chaque fois. Merci beaucoup, Rafik Smati. Merci, Thomas Guénolé. Laure Breton, la Une de Libération, demain.
Édouard Filou.
Ah, très bien. Bah voilà, et la Une du Figaro.
Manon, Édouard Philippe, le discours de politique générale, mais sans jeu de mots.
Ah, très bien. Bah ouais, il faudra vous y mettre un jour quand même au Figaro. Allez, il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le classico programme ce soir.
Il s'est passé des choses aujourd'hui. Bah oui. Sur la 4e étape du Tour de France, exclusion pour la star Peter Sagan, victime, enfin, qui s'est rendu coupable.
Oui,
d'un comportement dangereux. Victoire d'étape pour le Français Arnaud Démare. C'est la première victoire française au sprint depuis 2006 sur une étape du Tour. Donc il y a plein de choses à dire. On va aussi revenir évidemment sur la deuxième journée au tournoi de tennis de Wimbledon. Donc restez avec nous.
Et oui, bien sûr, le classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.